sont les raisons qui nous poussent à croire que tout d'un coup les médias ont des effets forts sur les gens?
Bon Jack, qu'est-ce qu'on a?
Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine.
Sciences Po Ex et les étudiants du master métier de l'information vous présentent Révolution numérique, un podcast réflexif pour mieux comprendre et interroger les enjeux numériques de l'information. Pour cette première saison, l'équipe a décidé de revenir sur ce que certains médias ont qualifié d'affaire George Floyd, pour décrypter, épisode après épisode, ce que nous dit cet événement des usages contemporains du numérique et des débats qu'il suscite.
And then again, an extraordinary line, when the looting starts, the shooting starts. The President of the United States.
Wow, Inès, t'as vu ce qui s'est passé avec les tweets de Donald Trump? Faut vraiment qu'on en parle. T'es libre là?
Ouais, c'est clair, faut vraiment qu'on s'occupe de ça. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 9e épisode du podcast de Sciences Po Ex, Révolution numérique. Il y a quelques temps, avec Sophie, on discutait des conséquences des tensions raciales aux États-Unis et de l'impact du mouvement Black Lives Matter.
Quand les pillages commencent, les tirs commencent, tweetait Donald Trump quelques jours après la mort de George Floyd, étouffé en pleine rue par la police de Minneapolis, le 25 mai 2020. Alors que la pandémie nous retranche derrière nos écrans, l'information s'impose comme un enjeu numérique crucial. Pour vous donner une idée, Facebook compte aujourd'hui près de 3 milliards d'utilisateurs mensuels, dont 200 millions aux États-Unis, contre 61 millions pour Twitter.
C'est dans ce contexte-là que les faits nous ont sauté aux yeux. L'affaire George Floyd a réellement fait exploser le mirage de la neutralité des réseaux sociaux. Elle nous invite tous à nous interroger sur la modération de ces plateformes. Comment doit-on considérer les géants des réseaux sociaux? En tant que simple outil de communication, des entreprises privées règnent dans leur royaume, ou en tant que matrice virtuelle de l'espace démocratique mondial?
Il est clair que nos attentes envers les réseaux sociaux ont beaucoup évolué depuis l'apparition de ces plateformes. Souvenez-vous, en 2011, Facebook était considéré comme un outil d'émancipation démocratique ayant permis à la révolution égyptienne de naître et de s'organiser. Or, en 2018, l'affaire Cambridge Analytica démontre que les réseaux sociaux sont aussi devenus des plateformes de désinformation et de manipulation de masse. La manière par laquelle nous percevons ces acteurs a donc fortement évolué, et l'affaire George Floyd s'inscrit dans ce mouvement. Les violences raciales qu'a connues et que connaît toujours l'Amérique se sont incarnées sur les réseaux sociaux, miroir d'une société plus que jamais divisée. La résurgence des tensions raciales et du mouvement Black Lives Matter, avec l'affaire George Floyd, a obligé Facebook et Twitter à se positionner, mettant ainsi en lumière les défaillances d'une régulation pour le moins problématique.
Mais alors, c'est quoi ces espaces numériques de discussion? Des espaces publics ou bien privés?
Alors j'ai fait des recherches, et pour être bien clair, c'est une question assez complexe, comme vous le verrez, mais pour y répondre, il faut d'abord se poser une autre question. Qu'est-ce qu'un réseau social? On peut dire que c'est un espace en libre accès, à condition de s'y inscrire, bien sûr, mais dont la création d'un compte est gratuite. Les opinions s'expriment alors par la création et la publication de contenu.
Dans ce cas, ça serait un espace public virtuel non marchand, non?
Alors attention, il ne faut pas oublier que ça reste une entreprise. Derrière les algorithmes, des cadres législatifs sont imposés par les États qui essaient aujourd'hui d'imposer des modes de régulation aux activités de ces acteurs qui, dans le même temps, mettent en place des stratégies industrielles pour assurer leur pérennité. Facebook garde ses directives internes de modération secrètes. Elles consistent à permettre aux équipes de savoir comment appliquer les standards de la communauté. Peut-on vraiment parler d'espace public quand la symétrie de l'information constitue le fondement de l'écosystème?
Vous avez saisi le problème. Alors, un petit rappel juridique s'impose. En 1995, Stratman Achmont, la société de courtage de Jordan Belfort, oui, c'est lui, le loup de Wall Street, fait condamner la plateforme Prodigy pour le commentaire d'un utilisateur anonyme. L'année suivante, la section 230 est adoptée dans le cadre du Communications Decency Act pour protéger les plateformes. On a alors deux types de sites. Tout d'abord les éditeurs, comme vous-même sur les réseaux sociaux, qui êtes juridiquement responsables du contenu que vous publiez. D'autre part, nous avons aussi les hébergeurs, comme Facebook ou Twitter, qui sont quant à eux considérés comme de simples intermédiaires techniques.
Comment ?
Mais dans la pratique, c'est plus compliqué. Souvenez-vous, en 2016, à l'aube de l'élection de Trump, 120 pages pro-russes sur Facebook ont diffusé plus de 80 000 publications politiques en soutien aux candidats républicains. Plus de la moitié des utilisateurs américains y sont alors exposés. Plus tôt, Zuckerberg niait l'impact des réseaux sociaux sur les choix électoraux, mais il a dû revenir sur sa position, puisque le micro-ciblage des données de Facebook par Cambridge Analytica a permis la mise en place d'une énorme campagne d'influence à l'insu des utilisateurs et par une puissance bien étrangère.
3 mois après la mort de George Floyd, Jacob Blake est tué en pleine rue à Kenosha, dans le Wisconsin. Les manifestations dégénèrent, 2 personnes sont tuées par Kyle Rittenhouse, un militant d'extrême droite de 17 ans. Quelques heures avant, un appel aux armes avait été lancé sous la forme d'un événement Facebook. Signalé 450 fois, il n'a pas été supprimé. Une simple erreur opérationnelle selon Facebook.
Vous connaissez probablement l'artiste Her, l'étoile montante de la scène R&B américaine. Elle chantait cet été I Can't Breathe, une lettre ouverte aux détracteurs du mouvement Black Lives Matter. Her chante, mais elle slame aussi, et à travers elle, la mort de George Floyd fait ressurgir le trauma de l'expérience afro-américaine. Les violences policières rythment depuis des décennies les relations raciales entre les Américains et inspirent de nombreux artistes à protester par leur musique. Her signe un titre poignant et s'inscrit dans cette lignée de l'activisme par l'art. Elle s'adresse à nous, auditeurs, nous prend à partie et dénonce l'emprise de la fabrique des discours par les médias.
En 1971, Jill Scott Heron clamait « The revolution will not be televised ». C'était 3 ans après les émeutes écrasées de Détroit. Her reprend l'appel du poète des peines afro-américaines. Jill Scott Heron, qui a donné au hip-hop son style et son phrasé scandé, qu'utilise Her aujourd'hui. À travers cette reprise, l'enjeu reposerait donc dans nos pratiques du quotidien, de notre manière de nous informer et de l'impact de ces plateformes sur la formation de nos opinions. This is the American pride. It's justifying a genocide, romanticizing the theft and bloodshed that made America the land of the free. To take a black life, land of the free, to bring a gun to a peaceful fight for civil rights. You are desensitized to pulling triggers on innocent lives because that's how we got here in the first place. These wounds sink deeper than the bullet your entitled hands could ever reach. Generations and generations of pain, fear, and anxiety. Equality is walking without intuition, saying the protector and the killer is wearing the same uniform. The revolution is not televised. Media perception is forced down the throats of closed minds, so it's lies in the headlines and generations of supremacy.
Dans ce contexte de très forte tension décrit par Her, si les réseaux sociaux ne se voient qu'en simple intermédiaire, force est de constater qu'avec les contenus dangereux hébergés alimentant les tensions, une véritable politique de modération s'avère être nécessaire. Et si l'on y réfléchit bien, c'est une double modération que les réseaux sociaux appliquent. D'une part, les règles des plateformes régissent ce qui est acceptable ou non, et d'autre part, les algorithmes enferment les individus dans des bulles à filtres, choisissant ce qu'un utilisateur doit voir ou non. Or, qui décide de ce qui est visible dans l'espace public numérique ? Et selon quels principes ? Bien, au risque de vous décevoir, la réponse n'est pas très satisfaisante et une inspection s'impose.
Par le très récent durcissement de leur politique de modération, les plateformes numériques ont démontré que bien qu'étant des entités économiques dont l'objectif prioritaire demeure la maximisation de leurs profits, ce sont aussi et surtout des entités politiques qui ne peuvent ignorer la pression des mouvements sociaux. Et pour démontrer cela, jetons un bref coup d'œil à la modération des géants des réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Vous le verrez dans ce podcast, le dirigeant de Twitter, Jack Dorsey, fait un peu figure de proue en termes de modération avec une politique ouvertement interventionniste.
Donald Trump cite les mots du chef de la police de Miami, Walter E. Hedley, qui, en 1967, encourage alors les violences policières contre la communauté noire en plein mouvement des droits civiques, affirmant même ne pas se soucier d'être accusé de brutalité policière. Or, Twitter l'affirme, en termes de modération, la violence et l'appel à la haine n'est plus tolérable, même s'il faut s'attaquer au président. C'est du jamais vu chez Twitter, pour qui la parole politique des dirigeants a longtemps relevé de l'ordre de l'intérêt public et ne devait pas être touchée.
Vous avez donc compris le principe, mais plus concrètement, sans être retiré, le tweet de Trump s'est vu placé derrière un avis de la plateforme indiquant l'infraction au code de conduite de Twitter pour glorification de la violence. Et en plus de cela, il fallait cliquer 2 fois sur le message pour y avoir accès. Et de plus, il était impossible de le retweeter ou même d'y répondre. Du jamais vu pour de la modération sur Twitter, s'ancrant dans une remise en question plus large de sa politique de modération entamée depuis plusieurs mois déjà, Jack Dorsey décidant notamment fin 2019 d'interdire toute publicité politique sur la plateforme.
Et déjà avant la mort de George Floyd, Twitter a étiqueté comme trompeur le tweet de Trump selon lequel le vote par correspondance faciliterait la fraude électorale. Une modération qui n'a décidément pas plu à Donald Trump, qui a décidé fin mai dernier de signer un décret exécutif invitant les agences fédérales à réexaminer la fameuse section 230, si chère aux géants des réseaux sociaux. Mais ça s'avère surtout symbolique. Cette bataille juridique incarne néanmoins les velléités de Trump quant à la remise en question de leur statut.
Enfin bon, il ne faut pas non plus se leurrer, la politique volontariste de Twitter est relativement récente. Au cœur de celle-ci, le Conseil Confiance et Sécurité, composé d'une quarantaine d'experts et d'ONG, a été créé en 2016, alors même que Twitter s'était retrouvé sous le feu des critiques pour son incapacité à limiter la prolifération des contenus haineux et du harcèlement sur leur plateforme. C'est cet organe qui a été saisi pour modérer les publications de Donald Trump, un conseil uniquement consultatif et qui est resté longtemps en sommeil après sa création, dont l'existence explique peut-être le fait que Facebook se retrouve davantage au cœur des critiques que Twitter aujourd'hui.
How do we define what is dangerous? Who should decide?
Voici ce que déclarait Mark Zuckerberg le 28 octobre 2020 devant le Sénat américain. Il reconnaissait alors lui-même l'ambiguïté du principe de modération. Les semaines suivant la mort de George Floyd, la campagne de boycott Stop Hate for Profit accuse le réseau de minimiser sa responsabilité au profit de publicités politiques à caractère haineux. Et quand Twitter cache le tweet de Trump menaçant de tirer sur les manifestants, Facebook le laisse intact. En laissant proliférer ses discours haineux, Facebook est ainsi régulièrement accusé de faire le jeu du Trumpisme, et il n'est pas nécessaire de creuser bien profond pour s'en apercevoir.
En 2019, Facebook qualifie Breitbart News, média d'extrême droite, de source d'informations fiables. Le nom de son fondateur vous est peut-être familier, c'est Steve Bannon, qui s'avère être aussi à l'origine de Cambridge Analytica, dont la méthode repose sur du micro-ciblage pour influencer les élections. En 2016, Bannon devient le directeur exécutif de la campagne présidentielle de Donald Trump.
Facebook ne supprime pas non plus les publications de pages d'extrême droite en plein essor, comme celle de Ben Shapiro, journaliste, entre guillemets, hein, dont les contenus postés contreviennent clairement à l'éthique du réseau. The Daily Wire, fondé par Shapiro, et Mad World News entretiennent une relation financière permettant à Shapiro d'attirer de nouveaux lecteurs. Comment, vous me direz ? Bien, Mad World News réécrit des articles de presse en les adaptant aux débats actuels dans le seul but d'attiser la controverse, quitte à diffuser des fake news. C'est interdit et Facebook l'a fait savoir. Mais les deux médias existent toujours sur la plateforme.
Enfin, en juin dernier, des groupuscules de suprémacistes blancs comme les Proud Boys et American Guard multipliaient la création de comptes sur le réseau, menaçant d'attaquer les manifestants physiquement. L'unité de lutte contre les contenus dangereux déclarait alors être dans, je cite, l'idée de le retirer d'ici une semaine ou deux. Une déclaration assez lunaire, compte tenu de l'urgence de la modération. Interviewé par Fox News, Zuckerberg se défend alors en affirmant que Facebook n'a pas vocation à jouer le rôle de l'arbitre de la vérité en ligne. Une déclaration retweetée par qui, vous me direz ? Eh bien, par Donald Trump lui-même. Hein, oui, étonnant, n'est-ce pas ? Et non, si vous l'avez pas saisi, c'était ironique. Quoi qu'il en soit, Facebook s'imagine à la manière d'un serveur informatique, fournissant des tuyaux de communication, mais ne se mêlerait pas de ce qu'il transporterait.
Mais 2020 confirmera l'impact sur le public que Facebook ne peut plus minimiser. Le 26 juin, alors que le boycott des publicités aggrave le débat de la régulation, l'action du réseau chute de 8%. Alors Zuckerberg annonce des réformes. Des étiquettes d'avertissement, un peu comme sur Twitter, seront désormais greffées à certaines publications, comme les tweets de Trump. Parmi eux, les accusations de fraude électorale à l'encontre de Biden. Enfin, la modération de Facebook reste bien timide. Le statut incendiaire de Trump, quand les pillages commencent et les tirs commencent, est quant à lui toujours disponible sur Facebook. Vérifiez par vous-même.
So we work with experts across society to strike the right balance. We don't always get it right, but we try to be fair and consistent.
Facebook a donc pris du retard, peut-être même trop. Plus qu'agir en faveur d'une modération propre aux principes d'éthique que le réseau se targue de promouvoir, Facebook a démontré ces dernières années que toute sa pratique régulative consiste à réagir aux controverses dans lesquelles elle est prise. L'inaction de Facebook serait ainsi la conséquence de la conception particulière de Mark Zuckerberg de la neutralité de la plateforme, rééquilibrant un biais libéral dont sont depuis longtemps accusées les entreprises de la Silicon Valley, profit cette fois-ci d'un rapprochement avec les conservateurs.
Il ne faut pas oublier que ces réseaux sociaux demeurent des entreprises privées avec des intérêts particuliers. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus dépendants de ces entreprises, que ce soit pour communiquer ou s'informer. Mais ça fait longtemps que la communication politique s'en est emparée pour se défaire des médias traditionnels. Mais elle en est aussi devenue dépendante, voire même victime de leur modération.
Et ça, bah vous vous en doutez, les politiques américains l'ont très bien compris et ont essayé de s'en défaire tout en s'attaquant au problème. Pour beaucoup d'entre eux, En se décidant à modérer activement les contenus, les réseaux sociaux rompent avec leur statut d'hébergeur, profitent de celui d'une plateforme de médias. Or, si on suit cette logique, Twitter et Facebook seraient juridiquement responsables des contenus illicites publiés. Un changement qui n'arrangerait pas du tout les plateformes, et bah ça, Donald Trump et les Républicains l'ont très bien compris. En attendant, ils accusent la plateforme de censurer leur liberté d'expression en supprimant leurs publications, ce qui remet directement en question leur statut légal. Et à l'inverse, bah, les démocrates accusent Facebook et ses conseillers de laisser proliférer les appels à la haine et les discours suprémacistes, demandant donc davantage de modération.
Oh Younes, j'ai trouvé un truc super intéressant pour le podcast. Tiens, on discutait des démocrates la dernière fois. Eh bien, je traînais sur internet et j'ai vu que plusieurs personnes soutiennent un démantèlement pur et simple des réseaux sociaux pour pallier leur manquement. C'est vraiment super intéressant. Attends, je t'envoie ça, bouge pas. L'idée d'un démantèlement de Twitter et Facebook, bah, c'est le produit de ce flou permanent dans la régulation de leur contenu. Timothy Wu, professeur de droit à Columbia et spécialiste de la régulation des médias, est l'un des pionniers sur cette idée. Pour lui, c'est un tout nouveau cadre juridique qu'il faut inventer pour ces entreprises considérées juridiquement comme de simples entreprises privées négligeant leur influence sur nos démocraties. Pour cela, deux solutions sont envisagées, un démantèlement pur et simple des GAFAM ou alors leur nationalisation, comme ce fut le cas pour les chemins de fer au XIXe siècle. Deux manières de penser un démantèlement s'imposent dans le paysage politique et juridique, une idée qui devient de plus en plus populaire aux États-Unis, si bien que la candidate démocrate Elizabeth Warren en avait fait l'un des points clés de son programme.
Warren took aim at the company over the weekend. There was this tweet accusing Facebook of throwing its hands up on misinformation and political discourse and saying that when profit comes up against protecting democracy, Facebook chooses profit.
Tout d'abord, la trop forte concentration de ces entreprises poserait un grave problème. Les entreprises comme Facebook rachetant systématiquement la concurrence, comme ce fut le cas avec Instagram et WhatsApp, et abuseraient donc de leur position dominante. Ce serait donc davantage pour des raisons économiques que cette solution serait envisagée, comparant la situation des GAFAM à celle des barons pétroliers. C'est pour cela que la commission de la concurrence américaine, ainsi que 48 états du pays, ont engagé mercredi 9 décembre des procédures antitrust pouvant mener à la cession d'actifs dont ceux d'Instagram et de WhatsApp. Preuve donc que la réflexion bouillonne aux États-Unis.
Une autre motivation pour un démantèlement serait de limiter l'influence considérable que ces entreprises ont acquise sur nos démocraties. Comme on vous l'a expliqué dans ce podcast, le manque de régulation des contenus des plateformes a une véritable influence sur l'exercice politique. C'est une idée qui est aussi très présente en Europe, et à ce titre, la vision du commissaire européen au numérique Thierry Breton résume bien la situation, qualifiant les GAFAM de « too big to care », trop gros pour être responsable, et donc trop dangereux pour la liberté d'expression.
Écoutez, on n'est pas là pour vous faire la morale, mais on va quand même vous donner un conseil. On sait très bien qu'on n'a pas tous ni le temps ni le courage de se plonger dans les ouvrages universitaires de Timothy Wu pour creuser le sujet. Donc si malgré tout, vous voulez en apprendre davantage sur cette notion, eh bien n'hésitez pas à consulter l'entretien avec l'universitaire Fred Turner réalisé par le média L'ADN. Il s'intitule « Covid-19, Black Lives Matter, comment les GAFAM réagissent aux enjeux sociaux de l'époque ?» Et Fred Turner, il résume très bien la situation tout en élargissant sur des concepts très pertinents, tel que celui du capitalisme de surveillance, développé par l'universitaire Shoshana Zuboff, que nos camarades ont pu traiter dans d'autres épisodes. Et donc vous trouverez bien entendu ce lien en description du podcast.
Vous l'avez donc compris, la question de la modération des réseaux sociaux est une question autant problématique qu'elle est nécessaire. Les tensions qui ont suivi la mort de George Floyd permettent de mettre en lumière les failles de ces plateformes, faisant exploser le mirage de neutralité des réseaux sociaux, dont le statut judiciaire demeure à réinventer. La modération des géants de l'Internet n'en est pas résolue pour autant.
Les membres du Conseil Confiance et Sécurité de Twitter se sont longtemps plaints de la mise en sommeil de l'organe. Il serait intéressant de voir si cette transparence promue par Twitter relève davantage d'une prise de conscience ou d'un opportunisme afin d'éviter ce qui arrive aujourd'hui à Facebook, attaqué de toutes parts pour son inaction.
Fin octobre 2020, Facebook met en place un conseil de surveillance visant à juger les qualités jugées en matière de modération. Le conseil est indépendant et il réunit 40 personnalités dont certaines sont assez critiques de Facebook. Mais ce conseil s'avère être financé à hauteur de 130 millions de dollars par un trust appartenant à qui ? Bien Facebook ! Et là encore, l'efficacité de l'organe est d'ores et déjà questionnée.
Quoi qu'il en soit, elle doit rentrer en fonction au début de l'année 2021. Et à l'heure où Facebook fait l'objet d'une enquête par les autorités antitrust, il sera intéressant de voir le chemin emprunté par Mark Zuckerberg pour sa politique de modération, objet de toutes les tensions. En tout cas, au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes au lendemain des violences du Capitole et Mark Zuckerberg a annoncé il y a 45 minutes la suspension du compte Facebook et Instagram de Donald Trump à durée indéterminée. Quoi qu'il advienne, et c'est sûrement trop tôt à l'heure qu'il est pour le savoir, force est de constater qu'il se passe quelque chose au siège de Facebook. Merci de nous avoir écoutés, et si vous découvrez cette série avec ce podcast, eh bien n'hésitez pas à écouter les numéros de nos camarades, ils sont tous super, même si on va pas se mentir que le nôtre est clairement le meilleur.
C'était Révolution Numérique, prenez soin de vous, et à bientôt.
À bientôt. And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Scheming, now let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. Now tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record.